premier livre de Samuel, au chapitre 3, du verset 1 à 10. Oui, c'est bien ce que je pensais. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Je ne sais pas vous, mais je trouve que les rhumes en été, c'est les pires. C'est comme ça que moi, je les ressens. Il y a la chaleur, hein, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, on enlève le plus possible d'habits et puis on attrape un coup de froid et on a des rhumes épouvantables. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que mon oreille gauche était complètement bouchée et je dors sur le côté droit. Et puis, Florence m'a parlé et je n'ai rien entendu. Je dois reconnaître que ce n'était pas tout à fait désagréable. Même s'il faut que je dise que des fois, j'entends la voix de ma femme même quand elle ne me parle pas. J'entends qu'elle me dit, il faut faire comme ça, il faut faire ci. Les choses vont beaucoup mieux maintenant. Et je peux distinguer entre la voix de ma femme et la voix de ma femme qui est dans ma tête. Donc ça, c'est déjà un progrès. En tout cas, cela m'a fait penser au fait que écouter est une activité qui présente des caractéristiques particulières. On peut entendre sans pour autant écouter, parce qu'on est distrait, parce que cela ne nous intéresse pas, parce qu'il y a trop de bruit autour de nous, parce qu'on a les oreilles bouchées. Même des fois, on peut entendre ce qu'on veut entendre. Il existe cependant une autre possibilité. On n'entend pas parce que personne ne nous parle. Le texte qui vise à introduire l'appel de Samuel semble décrire ce genre de situation. La parole était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Trop souvent, nous sommes tellement absorbés par l'histoire de l'appel de Samuel que nous oublions le contexte plus large, celui de la relation entre Dieu et son peuple. Les premiers livres de la Bible, depuis la Genèse jusqu'au livre des Juges, Il y a tout le temps Dieu qui parle. Dieu qui parle et sa parole crée, sa parole appelle, sa parole guide, sa parole corrige. L'introduction, les premiers mots du chapitre 3 nous parlent d'une situation complètement différente. La parole de Dieu est rare. Et pourtant, le sanctuaire continuait à fonctionner. Les sacrifices étaient faits tous les jours. Les gens allaient chez Samuel pour se consulter. Samuel était un prophète, il était aussi un voyant. Hein, donc, c'était le point de repère du peuple. C'était pourtant une situation qui ressemblait beaucoup à celle du temps de Noé. Tout était normal, tout continuait comme d'habitude. Et pourtant, le jour où la porte de l'arche fut fermée, il commença à pleuvoir et il y eut la destruction de tout. Quelque chose de semblable va se passer dans la situation, dans l'histoire d'Élie. La situation était catastrophique, Dieu ne parlait pas. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais cette situation me rappelle quelque chose qui nous touche de près, nous et l'Église en Occident. Tout continue comme depuis des siècles et les références au déclin de l'Église ne se traduisent pas en des actions concrètes, mais seulement par des analyses passagères. Nous sommes devenus une partie de la vaisselle de cristal qui est dans les placards et la société permet de sortir en des rares occasions. Autrement, nous sommes relégués au placard. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi, alors que chaque conférence confessionnelle et œcuménique souligne le rôle de l'Église, les témoignages des personnes rachetées sont si rares et sporadiques? Et pourquoi l'Église en Occident, à l'exception de quelques expériences locales limitées et trop mises en avant, parce qu'on n'a pas d'autre chose à dire, connaît-elle un déclin constant? Je pense que comme au temps d'Élie, les paroles de 1 Samuel 3:1 sont extrêmement pertinentes pour la situation actuelle. La parole de Dieu est rare, les visions ne sont pas fréquentes. Et pourtant, je suis convaincu que Dieu n'a pas cessé de parler. Je crois plutôt que l'Église et les croyants en général ont cessé d'écouter. Dans mon travail pour le quartier international, je voyage beaucoup et je vois que la situation est vraiment en général, pas dans des cas spécifiques, mais en général est très difficile. Cette Église qui est appelée à diffuser le message de Dieu a adapté ce message à ce que les gens veulent entendre. La première question que nous devrions donc nous poser est la suivante. Sommes-nous encore convaincus qu'il existe un message de Dieu pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui? Si tel est le cas, en tant que membres du corps du Christ, sommes-nous conscients de notre responsabilité de faire entendre ce message à notre génération? Je ne dis pas que l'Église est complètement silencieuse. Il suffit de penser à son engagement en faveur de l'environnement, de la justice sociale, de l'inclusion. Certaines parties du message biblique sont utilisées pour expliquer notre engagement, mais le message de la bonne nouvelle, du salut, ce message qui devrait faire brûler les cœurs des gens lorsqu'ils l'entendent, comme les deux disciples sur la voie vers Emmaüs, quand ils écoutaient Jésus, leur cœur brûlait, ce message qui devrait faire brûler les cœurs, il a été édulcoré, il est devenu politiquement correct. Nous avons arrêté de parler de l'enfer car cela met les gens mal à l'aise. Nous évitons de parler du péché. Nous parlons plutôt de mauvais choix. Nous devons mettre l'accent sur le désir de Dieu de bénir. Nos célébrations doivent être plus spectaculaires et agréables pour les fidèles. Nous devrions dire aux gens ce que Jésus peut faire pour eux en flattant leur oreille plutôt qu'en touchant leur cœur. Nous devons essayer de suivre notre époque afin de nous aligner aux principes du monde. L'humanité est devenue le centre du message de Dieu et non pas l'objet qui reçoit le message de Dieu. Et Dieu a été relégué dans le placard au second plan. Oui, les paroles que nous lisons dans 1 Samuel s'appliquent à notre époque. J'en suis convaincu. Mais je me demande si à cette époque, à ce temps-là, tout comme aujourd'hui, ce n'est pas tellement la parole de Dieu qui est rare, mais plutôt ceux qui la proclament qui se sont fait rares. Il y a un écrivain américain, un pasteur, qui a eu beaucoup d'influence sur nos vies avec ses livres. Il était un homme dont le message était intransigeant et sa fidélité à la parole de Dieu était claire. Dans un de ses ouvrages évoquant le christianisme et la nécessité de son renouveau, Tozer affirmait que si le christianisme doit renaître, cela devra se faire par des moyens différents que ceux qui sont actuellement utilisés. Un nouveau type de prédicateur devra émerger. Un autre type d'homme religieux doit émerger parmi nous. Il doit être de la vieille école des prophètes, Tozer continue. Un homme qui a eu des visions de Dieu et qui a entendu une voix venant du trône de Dieu. Il doit être un contraste flagrant avec tout ce que notre civilisation, souriante et mielleuse, a de plus cher. Il contredira, dénoncera et protestera au nom de Dieu. Il s'attirera la haine et l'opposition d'une grande partie de la chrétienté même. Un tel homme risque d'éprouver une certaine colère envers le monde. Il aimera le Christ et les âmes des hommes au point d'être prêt à mourir pour la gloire de l'unique et le salut des autres. Il n'aura pas peur des mortels. Un nouveau type de prophète qui reflète l'ancien type de prophète. Moi, je pense à Élie comme un tel prophète. Jacques, dans son épître, décrit Élie comme un homme normal, quelqu'un comme nous, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec ses bas et ses hauts, ses peurs, ses espoirs, ses élans et ses hésitations, et pourtant un homme qui a marqué la vie de tant de personnes de son époque. Je suis convaincu que Élie lui-même a été surpris par ce que Dieu a pu accomplir à travers sa vie et sa grâce. L'appel était clair pour Élie, tout comme la voix qu'il entendait depuis le trône de Dieu. Cela lui a permis de s'opposer aux tendances de son époque. Je suis convaincu que c'est le genre de prophète dont l'Église a besoin aujourd'hui. Le genre de soldats et d'officiers que l'armée de salut a besoin, dont l'armée de salut a besoin. Le genre de croyants que le royaume de Dieu a besoin si la mission de Dieu doit être menée à bien. L'Église en Occident continue à rechercher des potions magiques, des bonnes formules alchimiques, travaille avec des algorithmes et des schémas comportementaux, suit des modèles que le monde célèbre, mais qui sont en contradiction avec le message de Jésus, un message qui va contre courant. L'Église a adopté la vision étroite du monde et ses disciplines, et dans le meilleur des cas, nous a transformés en généralistes bourrés de notions que nous répétons comme des perroquets. L'objectif de l'Église semble plutôt être devenu celui des gens qui ont bâti la tour de Babel. Leur intention, c'est de se faire un nom, être rappelé. Et ils ont entendu la voix de Dieu, mais pas la façon dont on aurait voulu. Les prophètes de l'Ancien Testament, bien que éloignés de nous dans le temps et dans l'espace, peuvent nous enseigner à être des prophètes pour le 21e siècle. Les prophètes que ce siècle, dont ce siècle a besoin. Des hommes et des femmes que Dieu peut utiliser. Ces prophètes, hommes et femmes, étaient en premier lieu appelés à être différents, à parler différemment, à agir différemment, à se comporter différemment. Tout en étant pleinement intégrés dans leur société, ils vivaient dans une autre dimension. Une dimension qui leur permettait d'écouter le message de Dieu et de le transmettre au peuple. C'était des hommes et des femmes qui avaient une vision de ce que l'avenir pourrait être pour les gens. Et comme Catherine Booth, ils étaient convaincus qu'il ne pouvait pas y avoir aucune amélioration de l'avenir sans que le présent soit bouleversé. Ils étaient choisis. Ce n'était pas le service des ressources humaines qui les avait recherchés. Aucune annonce n'avait été publiée dans les journaux de l'époque. Peut-être n'étaient-ils pas les plus qualifiés selon les critères humains, mais Dieu les avait appelés parce qu'ils étaient faits d'une matière qui pouvait être travaillée et transformée en outil efficace. Certes, Dieu aurait pu choisir d'agir différemment, mais il avait décidé de ne pas agir sans eux. Je crois qu'il existe deux concepts qui éclairent ce point et qui sont fondamentaux dans l'appel que Dieu adresse aux personnes pour qu'elles soient ses représentants. Leur appel n'est pas le fruit du hasard. Ces hommes et ces femmes sont un peu comme Esther dans le livre d'Esther où Mardochée dit à Esther: qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu as été choisi. Ce sont des hommes et des femmes qui répondent à l'appel de Dieu, qui se présenteront devant sa présence et qui permettront à Dieu de combler le vide. Des hommes qui, comme Ézéchiel, se tiennent sur la brèche que comme Amos sont prêts à sortir de leur comfort zone, qui ont vécu l'expérience du poisson comme Jonas et sont désormais prêts à donner à Dieu ce qui lui est dû, qui sont conscients de, du besoin qu'il y a dans le monde et comme Esaïe, leur service est la conséquence de la compréhension qu'il y a un besoin et donc c'est l'amour de Dieu qui les oblige, qui comme Jérémie parviennent à vaincre au moment même où ils s'abandonnent et découvrent que Dieu est leur héros, que c'est dans la capitulation qu'il y a la victoire et non pas la défaite. Chaque génération a porté avec elle ses propres défis et ses propres opportunités. Les circonstances changent, mais les besoins de l'âme restent les mêmes. Nous avons la responsabilité de trouver le moyen de partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Mais nous ne pouvons pas y parvenir que si nous sommes capables d'écouter la voix de Dieu. Des hommes qui avaient entendu la voix venue du trône et étaient devenus des sentinelles pour le monde dans lequel ils vivaient. Ces gens ont contribué à façonner leur génération. Il y avait un sentiment d'urgence dans leur message. Je me demande s'il y a un sentiment d'urgence dans notre message. Ils ne partageaient pas simplement des informations. Leur message n'était pas tiré des commentaires de la Torah, ni créé par l'intelligence artificielle. Leur message provenait de la vraie, véritable intelligence. Une intelligence qui appartient à une autre dimension, la dimension divine, éternelle, et qui rend les gens conscients de leur destinée éternelle. On observe ici une séquence claire. Le message a d'abord eu un impact sur la vie de ces gens, de ces prophètes, et a déterminé la manière dont ils allaient être utilisés. Puis, à travers eux, le message a eu une influence sur la génération dans laquelle ces prophètes vivaient. La question que nous devons nous poser est dans quelle mesure ce message nous a transformés et nous sommes prêts à le partager. Ils étaient tous des prophètes formidables qui ont suivi le modèle donné par Dieu. Et comme nous l'avons entendu au début de ce culte, le prophète est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous donne beaucoup d'exemples où les personnages les moins probables ont été utilisés par Dieu pour parler. Est-ce que quelqu'un peut partager un exemple de quelque chose qui s'est passé où Dieu a utilisé pour parler? Ce n'est pas tellement, comment dirais-je, ça ne nous fera pas tout à fait plaisir parce que ça montre que Dieu vraiment peut utiliser tous et n'importe qui. Mon prophète préféré, c'est l'âne de Balaam. Ça m'humilie et me rend humble en même temps. Si nous sommes prêts à écouter ce que Dieu veut dire, si nous sommes prêts à prendre position, si nous lui demandons le courage de partager, il va nous parler, il va nous montrer. Et alors, à ce moment-là, la parole de Dieu ne sera pas rare. Les visions ne seront pas peu fréquentes. Et nous pourrons faire la différence dans notre société au XXIe siècle. Nous ne voulons pas adapter notre message. Nous voulons prononcer, proclamer, annoncer le message qui change, le message qui sauve, le message qui transforme. Et alors, nos témoignages, ce seront des témoignages de victoire. Ce seront des témoignages percutants, hein? Des témoignages qui feront brûler les cœurs des gens qui nous écoutent, parce qu'ils se rendront compte que Dieu agit. Moi, je veux être ce genre de prophète, à l'écoute de Dieu et prêt à parler. Et ma prière est que nous tous, à Orbe, à Yverdon, dans l'armée du salut, dans l'église, en Occident, puissions être de tels prophètes. Que Dieu bénisse.